Radio Okapi.
Identité culturelle. Radio Okapi.
Identité culturelle.
Messieurs, mesdames, bonjour. Merci de choisir Radio Okapi. Dans ce rendez-vous de la promotion de notre culture, nous parlons du prophète Simon Kimbangu, de son combat et de son héritage. C'est à l'occasion de l'instauration de la date du 6 avril comme journée nationale dédiée à sa lutte et à la conscience africaine par le président de la République. Qui est Simon Kimbangu? Quel était son combat et comment les Congolais aujourd'hui peuvent-ils profiter de la mission de ces prophètes? Nous recevons dans ce numéro d'identité culturelle les pasteurs Mayombo Charles de l'église kimbanguiste de Goma. Je suis Rosalie Zawadi et je vous souhaite la bienvenue dans ces magazines.
Radio Okapi.
À Goma. Sur 95.5 FM.
Okapi.
Chers auditeurs et auditrices des radios Okapi, rebonjour. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a décrété par son ordonnance numéro 23/042 du 30 mars dernier, le 6 avril de chaque année, comme jour férié légal en RDC, en souvenir du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Plusieurs acteurs à travers les pays honoraient déjà les prophètes Simon Kimbangu. C'est la dimension anthropologique de Simon Kimbangu qui nous a poussés à faire de lui un héros national, a déclaré Elie Kazadi, président de l'Union des nationalistes congolais. Il est au micro de Kelly Yoka.
Nous n'avons pas reçu mandat de la famille pour parler en son nom. Et nous n'engageons pas aussi l'église kimbanguiste. La LUNAC est une structure indépendante, mais seulement qui s'est servie de la dimension anthropologique de Papa Simon Kimbangu. Et celle-là nous a poussé à parler de lui et poussé l'État congolais à faire de lui un héros national. Puisque c'est par le combat de Kimbangu que Lumumba aujourd'hui est proclamé héros national. Comment celui qui avait milité pour que le peuple Congo retrouve son indépendance n'est pas élevé, mais vous élevez quelqu'un qui s'est servi de sa vision, de sa lutte. C'est juste, j'ai parti, ce n'est pas une bonne chose. Alors c'est comme ça que nous avons voulu rebondir en ce sens-là, faire voir les atouts que portait Papa Simon Kimbangu, faire voir les valeurs qu'incarnait Papa Simon Kimbangu à tout le monde. Et gloire à Dieu, merci au chef de l'État d'avoir répondu favorablement à sa promesse tenue en Kamba, de vouloir faire de la journée du 6 avril, jour férié, chômé et payé.
À Goma, les fidèles de l'église kimbanguiste ont organisé un carnaval du lieu communément appelé Entre-Président jusqu'à leur temple de Mugunga à l'ouest de la ville. Ils ont ainsi marché sur une distance d'environ 7 km au rythme de la fanfare kimbanguiste pour célébrer cette première journée des Kimbangu. Nous recevons le pasteur Mayombo Charles de l'église kimbanguiste de Goma. Pasteur Charles Mayombo, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes heureux de vous recevoir dans cette émission Identité culturelle. Quelles sont vos impressions par rapport à cette grande décision du président de la République?
Nous avons accueilli avec des sentiments joyeux. On était vraiment très content d'apprendre que le président vient de signer l'ordonnance décrétant le 6 avril comme date fériée, chômée et payée. Vraiment pour nous, c'est un acquis. Et c'est pourquoi, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, tous les kimbanguistes, les sympathisants kimbanguistes, voire même les non-kimbanguistes, ont célébré cette journée.
Nous parlons dans cette émission Identité culturelle du combat de Simon Kimbangu. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter Simon Kimbangu? Qui est-il?
Simon Kimbangu, c'est un citoyen congolais. Il est originaire de la province du Congo central, et précisément dans le village d'Nkamba. Il est né le 12 septembre 1887. C'est un citoyen ordinaire au départ et il s'est converti au protestantisme pendant la colonisation et c'était à l'église BMC, Baptiste Missionnaire Société. Et c'est là où il a été baptisé. Son comportement était exemplaire et c'est ainsi qu'on va le nommer catéchiste. Après cela, vers les années 1918, il va recevoir Jésus-Christ. Et Jésus-Christ qui lui confia la mission, comme quoi il doit continuer l'évangile. Mais Papa Simon Kimbangu n'était pas tout à fait d'accord parce qu'il s'est posé la question. Lui n'a pas beaucoup étudié, lui n'a pas de moyens, mais il ne sera pas écouté par la population. C'est ainsi qu'il va réagir en disant que ce serait mieux que Jésus puisse confier la mission aux missionnaires catholiques et protestants. Et ils étaient très écoutés. C'est ainsi qu'il va effectuer un voyage de quitter Nkamba pour aller à Kinshasa et chercher là où il peut être embauché. Et non seulement être embauché, non seulement c'est chercher un boulot, mais une façon de fuir Jésus-Christ. Il va s'embaucher à la société Willerie du Congo belge, à Léopoldville, à ce temps-là. Je crois que c'est l'actuel Marsavoco. Et là, ils exploitaient l'huile de palme. On va les nommer comme pointeurs. Donc, son service était de compter le nombre de filles d'huile. Il a effectué 3 mois sans être payé. À chaque fois que l'agent payait les travailleurs, à son tour, il trouvait à côté de son nom sa signature déjà apposée. Alors, il y a ses frères qui l'avaient facilité, l'accompagnaient à trouver le travail, mais il ne comprenait rien. Il disait, mais Kimbangu, comment se fait-il qu'un agent payeur, c'était un blanc, quand même, ce sont des administratifs, mais à chaque fois que tu réclames le salaire, on trouve que tu as déjà payé. Et tu déclares que non, tu n'as pas encore payé. Alors, le troisième mois, ses frères l'ont accompagné. Ils ont été à ses côtés de manière à vérifier cette fois-là si ce que Kimbangu déclare est vrai. Alors, ils sont allés au bureau de l'agent payeur et on va trouver la même chose. On a trouvé la signature de Kimbangu. Finalement, ils se sont dit, mais ce n'est pas normal et ce n'est pas possible. Est-ce que Kimbangu, en quittant le village, tu n'as pas laissé de problèmes là-bas? Kimbangu a dit, non, moi je n'ai pas laissé de problèmes. Alors, ils ont décidé que Kimbangu cesse le travail. Ils ont cotisé de l'argent pour qu'ils puissent faire le trafic de chikwang, pour aller acheter des chikwang au village, aux alentours de Kinshasa, et venir revendre ça à Kinshasa. Avec les calculs, il y avait des bénéfices après la vente. Mais à chaque fois qu'il terminait la vente, mais il y avait toujours des pertes. 3 fois encore, mais ses amis, ses frères du village, ils se sont dit non, Kimbangu, ce n'est pas normal. Tu dois rentrer au village parce que nous voyons qu'ici, ça ne tient pas. C'est ainsi qu'on va encore cotiser de l'argent et pour lui permettre de voyager pour Nkamba. Alors, cet argent, c'était de s'approvisionner de quelque chose parce que depuis qu'il a laissé la famille, rentrer mais réduit, c'était une façon de qu'il puisse s'approvisionner, avoir quelque chose qu'il peut
ramener à la maison.
Alors, il va acheter des poissons qu'on appelle protoptères, nzombo. En swahili, on appelle ça hondwe. Il a commencé le voyage jusqu'à Kasangulu. C'est à une vingtaine ou trentaine de kilomètres de Kinshasa, je pense. En arrivant à Kasangulu, il va rencontrer un policier qu'on appelle Mfufu. Mfufu va demander à Kimbangu, qu'est-ce que tu as dans ton sac? Il dit non, j'ai quelques poissons que j'apporte à mes enfants. Il dit non, ce n'est pas normal que tu manges les poissons pendant que moi je mange des pondou, du sombé. Et le policier a ravi ces poissons.
Tous les poissons.
C'était 3 poissons. Maintenant, Kimbangu va le supplier. Il dit, mon ami, je viens de parcourir beaucoup de difficultés, tout ça, mais c'est le seul espoir que j'ai. Ces poissons, je dois les présenter à mes enfants. Le policier était catégorique. Il avait refusé de remettre ce poisson. Maintenant, Kimbangu ne pouvait pas faire autrement. Alors, il était émotionné. Il va dire à ce policier que voilà comme tu aimes ce poisson. Dans ta vie, tout ce que tu consommeras comme nourriture, ça sera toujours des poissons. Même l'eau que tu consommeras, donc ça sera l'odeur de ces poissons. Et le policier Fufu trouvait ça comme une intimidation gratuite alors.
Oui.
Il dit non, c'est une façon de m'intimider. De
parce
manière...
qu'il est fâché.
Oui. Alors, Kimbangu est rentré jusqu'en Nkamba. Et là, nous sommes maintenant le 5 avril 1921. Dans la nuit même, Jésus-Christ apparaît vers 0h. Il dit, Kimbangu, Mais tu m'as fui. Est-ce que tu peux fuir Dieu? Moi, je t'ai confié la mission et je continue à insister. Demain, le 6 avril, tu vas aller taper la cloche comme signe de débiter le ministère évangélique. Et en même temps, tu vas passer chez Maman Kiantondo, qui est gravement malade et cela fait beaucoup d'années. Alors, tu vas prier à mon nom et comme ça, elle sera guérie.
Mm-hmm.
Jésus-Christ est reparti. C'est maintenant son épouse, Maman Mouilou Kiawanga. Mais elle dit, mais d'habitude, mon mari, quand il fait nuit, il fait des conversations avec un inconnu. Et Maman Mouilou va poser la question, mais tu dialogues avec qui? Il dit non, avec Jésus-Christ. Jésus-Christ, hein, il veut quoi? Il te demande quoi? Il dit non, il vient de me confier une mission d'évangéliser. Mais franchement, j'ai peur parce que c'est une lourde tâche. Maman Mouilou va dire non, ne refuse pas. Mon mari accepte, moi je vais t'accompagner, je vais t'appuyer.
La force de la femme.
Oui. D'ailleurs, c'est là où qui a été le début de l'émancipation de la femme africaine.
Mm-hmm.
Et vous comprendrez que ce couple était des villageois vraiment, un couple des hommes ordinaires qui n'ont pas fait des études, tout ça. Alors, et avec ça, Kimbangu s'est posé la question, mais comment je vais me tenir par rapport à cette mission? C'est ainsi que le matin, à 6 heures, Maman Mouilou se réveille tôt et Kimbangu. Maman Mouilou va exécuter sa tâche en tapant la cloche. Et Kimbangu se renda chez Maman Kiantondo. Maman Kiantondo, bon, la famille et la patiente, ils avaient déjà sionné presque les structures sanitaires.
Mm.
Et ils avaient consulté les guérisseurs de toutes sortes. Mais ça faisait des années et n'était pas vraiment en bonne santé. C'est ainsi qu'Imbangu, lorsqu'il était arrivé, il dit, voilà, nous prions. Pendant la prière, il pria au nom de Jésus et Maman Kiantondo s'éleva.
Mm.
Et c'était sa guérison. Alors, maintenant, comme vous savez, au village, tout le monde savait que Maman Kiantondo vraiment elle n'attendait que son dernier souffle. Parce qu'il n'y avait plus d'espoir qu'elle va guérir.
Oui.
Et comme elle était guérie, tous les villageois qui étaient au courant en disaient, mais ce n'est pas possible. Qui est à la base de cette guérison? Il dit non, c'est Papa Simon Kimbangu. Voilà comment la nouvelle s'est répandue à travers les différents villages. Voire même les missionnaires catholiques et protestants ne comprenaient pas comment quelqu'un que nous avons enseigné la religion, quelqu'un que nous avons baptisé, il arrive à faire des miracles et pas eux.
Et à part ces miracles de la guérison de Maman Kiantondo, il y a eu d'autres miracles dans la vie de Simon Kimbangu?
Beaucoup. Il avait ressuscité Maman Dina. Il venait de faire 3 jours pendant qu'elle était décédée. Mais sa famille, en apprenant non, qu'il y a un certain Kimbangu qui est en train d'opérer des miracles dans la contrée, ils se sont décidés de prendre Maman Dina et l'amener vers Kimbangu. Vous imaginez, après 3 jours, quelqu'un qui est décédé, donc vous voyez qu'il est dans un état de décomposition. Mais malgré ça, sa famille va prendre le courage de l'amener vers Kimbangu. C'est ainsi que Kimbangu va la ressusciter. Et c'était toujours la nouvelle qui se répandait un peu partout. Il a opéré beaucoup, beaucoup, beaucoup de miracles.
Son ministère, à partir du 6 avril, est accompagné par plusieurs miracles.
Tout à fait.
Et cette période dure combien de temps, ce ministère-là?
Ce ministère, à partir du mois d'avril jusqu'au mois de septembre de la même année.
Donc, le 6 avril, il commence et déjà en septembre, il est arrêté.
Oui, pas même au mois de septembre. Donc, au mois de mai, donc, les missionnaires protestants et catholiques, mais ils se disent, mais ce n'est pas normal. Que ce soit les opérateurs économiques. Parce que tous les travailleurs avaient séché à travailler dans des plantations, dans des mines, dans des hôpitaux, un peu partout, même les domestiques.
Oui.
Ils disent, non, nous avons un Mvuluzi, Papa Simon Kimbangu Mvuluzi.
Ça veut dire?
Mvuluzi qui veut dire un sauveur. Mukombozi.
Oui.
Ah, c'est tout le monde qui avait la curiosité d'aller écouter son enseignement, d'aller suivre et vivre ses miracles.
Et qu'est-ce qu'il enseignait exactement?
Il enseignait aux gens de laisser le mal. Il faut l'amour du prochain, de manière que les gens puissent se convertir, respecter les principes et les commandements de Dieu. Maintenant, c'était un manque à gagner aux colonisateurs, parce qu'ils sont venus exploiter. Alors, pour eux, quand le travail ne travaille pas, ils sèchent les travaux, les services. Voilà, c'était un manque à gagner pour eux. Comme ils étaient membres effectifs du Conseil de sécurité, les missionnaires catholiques et les missionnaires protestants, et les opérateurs économiques.
Oui.
Alors, lorsqu'il y avait des réunions de sécurité, ils vont soulever maintenant les problèmes de Papa Simon Kimbangu. Il dit non, vous les gouvernants, mais vous vous calmez ici, mais nous sommes en danger. Mais il y a un certain Kimbangu. Maintenant, il mobilise ses frères de manière à boycotter à nos commandements, tout ça, à nos dispositions. Voilà que ne croyez pas que cette affaire nous concerne seul en tant que religieux, mais ça vous concerne aussi. Parce que son objectif, c'est de mobiliser ses frères de manière à nous chasser de ce pays. Les gouvernants se sont dit, mais est-ce que ce que vous dites est normal? Oui, c'est normal et c'est vérifiable. Il y a maintenant l'administrateur Morel du territoire de Mbanzangungu. À ce moment-là, c'était Tisville. Il va effectuer une mission d'enquête sur Nkamba. Il va trouver textuellement comment Nkamba était inondé par des villageois. Kimbangu, bon, tu opères ce miracle au nom de qui? Il dit, au nom de Jésus-Christ. Qui m'a confié la mission? L'administrateur était rentré en Mbanzangungu, il a fait son rapport au conseil de district. Alors, c'est maintenant le 6 juin qu'on va assiéger Nkamba par des militaires. Le 6 juin, c'est la journée d'envahissement d'Nkamba et les militaires vont assiéger Nkamba de manière que Kimbangu ne puisse pas continuer son œuvre. Alors, Kimbangu se retire d'Nkamba vers Mbanzasanda. Entre Nkamba et Mbanzasanda, c'est à peu près 20 km, 20 à 30 km. Alors, il va se retirer jusqu'à Mbanzasanda. Et personne ne pouvait pas parler de Kimbangu en Kamba à ce moment-là. Tout le monde avait peur. Alors, on avait perquisitionné, on avait pillé, on avait donc, vous savez, avec une mission pareille, on n'épargne personne. En septembre, vers le 7 septembre 1921, Jésus-Christ va apparaître encore à Papa Simon Kimbangu. Il dit non, l'heure est arrivée, tu dois te livrer à tes bourreaux. Tu pars en Kamba, tu te livres. Et Simon Kimbangu, comme il devrait suivre la ligne de conduite de son maître, c'est ainsi qu'il quitte Mbanzasanda pour arriver en Kamba le 11 septembre. Et c'est ainsi que le 12 septembre, on va l'arrêter. Mais avant cela, on avait décrété la contrée, la province de Congo central est en état de siège.
Juste pour les rechercher.
Juste qu'il soit appréhendé par la justice militaire. On va les juger et le 3 octobre, on va prononcer la sentence comme quoi il doit être condamné. Auparavant, c'était donc peine de mort, tout ça, il y a eu d'autres instances qui avaient fait des recours, les recours sont partis jusqu'au roi des Belges, tout ça, on a dit bon, on l'arrête donc
à vie.
Non seulement qu'on va l'arrêter, mais il faut l'éloigner de son milieu. Donc il va d'Nkamba jusqu'à Elisabethville, qui est Lubumbashi actuellement. Ses disciples, ses acolytes, on les avait relégués dans des différents milieux et personne ne pouvait pas parler de Kimbangu. Et tout le monde avait peur. Voilà, c'est ainsi qu'on va l'arrêter à Lubumbashi à partir de 1921 et en 1951.
Il est mort. Et donc, le ministère a été de 5 mois seulement ou même en prison, il a continué à enseigner.
En prison, c'est maintenant... Il va épater maintenant les Blancs. Pendant ses 30 ans en prison, mais il continue à évangéliser. En Équateur, à Tisville, vers Kisangani, un peu
comment,
partout là.
Comment il les faisait?
Oui. Là, il y avait des télégrammes comme quoi, ici nous avons un Kimbangu. Et dans d'autres provinces, on envoie un télégramme. Nous avons vu Kimbangu ici. Nous l'avons arrêté. On est allé vérifier dans la prison.
Il est là.
Mais on avait dit d'amener tous ces Kimbangu ici. Ils sont venus avec ces Kimbangu, ils étaient au nombre de 5. On va prendre les Kimbangu qui est en prison, on l'amène parmi ces cinq, donc ça devient six Kimbangu. Mm. Et d'un coup, il reste un seul Kimbangu. Vous voyez ça?
Ouf! Pasteur Mayombo Charles, merci pour cette présentation de la vie des Kimbangu, de son ministère. Avant de parler de son héritage à la RDC, on peut prendre une chanson sur cet homme exceptionnel.
Kongo Mboka Kimbangu Amone la Passi. C'est une chanson jouée par le groupe de guitaristes kimbanguistes. Donc, on dit, si les Congolais nous continuons à souffrir, c'est parce que nous avons oublié Papa Simon Kimbangu. Pendant qu'il a donné sa vie pour libérer l'homme noir et l'homme opprimé en général.
À ceux qui viennent de nous rejoindre sur Radio Okapi, vous écoutez Identité culturelle et aujourd'hui nous parlons du combat de Simon Kimbangu. La journée du 6 avril est désormais dédiée à ces combats. Avec vous, pasteur Mayombo Charles, quel héritage de Simon Kimbangu nous avons aujourd'hui en RDC?
Papa Simon Kimbangu, c'est un visionnaire parce qu'il a éveillé la conscience africaine. S'il y a eu des indépendances africaines, mais il est le visionnaire, il est le percusseur. Si on entend parler de Lumumba, Kwame Nkrumah, Julius Nyerere et tant d'autres, mais c'est Kimbangu qui les inspirait, les donnait la ligne de conduite parce que c'est bien lui qui a été le premier à hausser la voix, à dire aux colonisateurs qu'un jour viendra, vous les Blancs, vous deviendrez des Noirs et les Noirs deviendront des Blancs. Et c'était déjà un problème, un colonisé de dire à son maître de cette manière. Il dit non, vous les Noirs, nous vous considérons comme des macaques. Comment vous pouvez faire cette inversion? Nous les Blancs, nous serons des Noirs. Non, ça c'est une injure. Vous voyez, quand un prophète, son testament ou bien sa prophétie se réalise souvent lorsqu'il est décédé.
Mm.
En 1951, Kimbangu est décédé, mais c'est à partir de 1951 que maintenant il y a l'éveil de la conscience africaine. Le premier pays maintenant commence à se soulever contre les colonisateurs. Il y a des indépendances après 1951. Et c'est ainsi que, en 1960, la RDC va accéder à son indépendance. Alors, comme héritage, d'abord, c'est la conscience africaine. Parce que ni Tété, Papa Simon Kimbangu, c'est vrai, les Africains étaient très loin d'accéder à l'indépendance. Le kimbanguisme, c'est quoi? Comme héritage, nous avons une civilisation. Nous avons une identité.
Mm-hmm.
Nous avons un mode de vie. Parce que nous, les Noirs, c'est quoi? L'enseignement que les Blancs nous ont amené, c'est de nous faire voir que notre identité, c'est pour Satan, à partir des noms que nous portons. Ce n'est pas normal. Même mode d'alimentation, mode d'habillement. Donc, tout ce qui est noir, on considère ça comme satanique.
Mm.
Papa Simon Kimbangu qui disait, non, Dieu qui a créé les hommes, il a voulu différencier les races. Il a voulu différencier les langues. Il a voulu différencier le mode de vie. Alors, nous, chez nous, c'est quoi? Nous sommes des imitateurs. Il faut parler comme un blanc. Il faut s'habiller comme un blanc. Il faut manger comme un blanc. Voilà que ça nous ramène, on ne sait pas où.
Oui.
Et là, c'est une perte de vitesse. Plus nous imitons les autres, plus nous nous éloignons ou bien nous perdons la connexion spirituelle avec Dieu. Même quand vous trouvez les kimbanguistes, la façon de s'habiller, de tenir, décente. Donc c'est la dignité humaine, c'est la conscience, c'est une civilisation. Et si nous mettons ça en exécution, d'autres nations, d'autres peuples vont nous imiter. Parce que ça va faire de nous des hommes respectueux.
En parlant de cet héritage de Simon Kimbangu, pasteur Mayombo Charles, comment est-ce que les Congolais aujourd'hui peuvent capitaliser tout cet héritage, les combats de ces prophètes congolais?
Justement, c'est ça la recommandation, que ce soit sur le plan politique. Donc, nous devons nous prendre en charge pendant que nous imitons ce qui vient d'ailleurs. Aujourd'hui, il y a le contexte Wazalendo, par exemple.
Oui.
Mais le premier Wazalendo, c'est Papa Simon Kimbangu qui s'est soulevé pour dire non. Il faut savoir dire non à ce qui est mal. Et les gens qui n'ont pas ce courage de dire non aux agresseurs, de dire non à ceux qui nous font du mal. Mais vous voyez que c'est un problème.
Il faut qu'ils aient l'esprit de Simon Kimbangu.
Tout à fait. Donc, il faut savoir se sacrifier pour que ce Congo décolle. Que tu sois politicien, que tu sois opérateur économique, que tu sois religieux. Vous voyez ça? Donc, c'est toujours la conscience. En fait, Kimbangu a lutté pour l'indépendance. Nous avons eu l'indépendance en 1960. Cette indépendance, c'était matériel et physique. C'était une partie remise. Mais le processus d'obtenir l'indépendance spirituelle, c'est ce que déjà nous commençons.
Merci beaucoup. Et après la journée qui est désormais dédiée au combat de Simon Kimbangu et à la conscience africaine, qu'est-ce qui peut être fait?
La journée, c'est une bonne chose parce que le gouvernement vient de décréter ça. Vraiment, c'est une grande reconnaissance que nous avons envers ce gouvernement à partir de son Excellence, Monsieur le Président Félix Tshilombo. C'est un point de départ. Nous continuons parce que nous avons un prophète, nous avons une religion. Le combat de Papa Simon Kimbangu, ce n'est pas un combat violent. Vous vous imaginez, de 1921, ça n'est qu'en 2023 qu'on vient de reconnaître Papa Simon Kimbangu et reconnaître la date de son ministère. Le combat peut être lent, mais on parviendra.
C'est la fin de ce numéro du magazine Identité culturelle sur Radio Okapi. Nous avons parlé aujourd'hui du combat et de l'héritage du prophète Simon Kimbangu. Merci à notre invité, le pasteur Mayombo Charles de l'église kimbanguiste de Goma. Ce magazine a été produit sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Je suis Rosalie Zawadi, je vous remercie de l'avoir suivi. À très bientôt sur ces ondes de la Radio de la Paix. Portez-vous bien.